pour vous avec 24 sur 24.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans l'émission précédente, je n'ai pas d'invité. Je vais vous présenter un livre dont nous écouterons le début dans un instant. Je vais vous en parler, mais comme à l'accoutumée, eh bien une petite info pour vous dire que ce samedi 11 février à 21h30 aura lieu au Café du Burgo, après Grenade, trois concerts. Avec des pizzas et des boissons pour tous, le tout dans une ambiance bon enfant. Et l'un des groupes, eh bien, c'est Paperback Writers, c'est-à-dire Emmanuel Urien et Manu Kos, deux auteurs que vous connaissez puisqu'ils sont déjà venus à Page. Donc c'est samedi soir au Café de Burgo à 21h30. N'hésitez pas à y aller, vous passerez une bonne soirée.
Page à page, Claire Ambille.
Ensuite, alors, comme je vous le disais, je vais vous présenter donc un livre dont nous allons écouter le début dans un instant. Alors, ce livre, c'est un roman qui s'appelle « La couleur des sentiments », écrit par Catherine Stockett, qui est une Américaine qui est originaire de Jackson. C'est une ville dont on va parler dans le livre, hein, puisque l'action se situe à Jackson, dans le Mississippi. Mais elle vit actuellement à Atlanta. Donc, c'est un roman. D'ailleurs, un film a été tiré de ce roman qui a été fait par Steven Spielberg il y a quelques années. Et puis là, je vais vous présenter donc ce livre en livre audio. C'est un livre qui comporte deux CD en MP3. Donc c'est un format pratique. Hein. Ce n'est pas seulement pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, mais c'est aussi pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas toujours le temps d'ouvrir un livre en version papier, alors on peut le mettre dans la voiture, on peut l'écouter en faisant sa vaisselle ou en faisant autre chose. Donc c'est bien pratique pour tout le monde. Et c'est un texte, donc le texte est intégral bien sûr, et c'est lu par trois comédiennes qui s'appellent Nathalie Once, Nathalie Hugo et Cachou Kirsch, et avec la participation de Valérie Lemaître. Voilà, donc c'est un roman, comme je vous le disais, traduit de l'anglais par Pierre Girard. Alors je vais vous dire un petit peu l'histoire, hein. On va en écouter donc le début dans un instant. Donc l'histoire, en 1962, à Jackson, dans le Mississippi, chez les Blancs, ce sont les Noirs qui font le ménage et élèvent les enfants, sans mot dire, sous peine de devoir prendre la porte. Est-ce le cas de Constantine, l'employé des Félanes, dont on n'a plus aucune nouvelle? Mais franchement, qui s'en soucierait? Ses amis, Minnie et Evelyn, et surtout Skeeter, la propre fille des Félanes, la jeune étudiante blanche et les deux employés noirs vont lier une alliance imprévisible pour comprendre. Et oui, comprendre la disparition de cet employé. Voilà, donc c'est ainsi que commence l'histoire de La couleur des sentiments. Alors c'est un roman passionnant, la critique est très bonne. C'est un roman passionnant de bout en bout. La couleur des sentiments se dévore sans reprendre son souffle. La narration est impeccable, hein, vous allez le voir avec les trois voix de ces comédiennes. Donc une bonne lecture, agréable à écouter. Les personnages sont plus qu'attachants et l'émotion est contrebalancée par des scènes du plus haut comique. Oui, on sourit beaucoup, il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Donc voilà, je vous laisse donc écouter pendant quelques minutes, hein, jusqu'à la fin de l'émission, le début de ce roman, La couleur des sentiments.
Audiolib présente La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Lue par Nathalie Hons, Nathalie Hugo, Cachou Kirsch et Valérie Lemaître. À Papy Stockett, de loin le meilleur conteur. Evelyn. Chapitre 1. Août 1962. Mae Mobley, elle est née de bonne heure un dimanche matin d'août 1960. Un bébé d'église, comme on dit. Moi, je m'occupe des bébés des Blancs, voilà ce que je fais. Et en plus de tout le boulot de la cuisine et du ménage. J'en ai élevé 17 de ces petits dans ma vie. Je sais comment les endormir, les calmer quand ils pleurent, et les mettre sur le pot le matin, avant que les mamans aient seulement le temps de sortir du lit. Mais un bébé qui hurle comme Mae Mobley Lee Folt, ça j'en avais jamais vu. Le premier jour que je pousse la porte, je la trouve toute chaude et toute rouge à éclater, et qui braille et qui se bagarre avec son biberon comme si c'était un navet pourri. Miss Lee Folt, elle a l'air terrifiée par son propre enfant. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je ne peux pas arrêter ça ?»« Ça ?» Tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche ici. Alors j'ai pris ce bébé tout rouge et hurlant dans mes bras. Je l'ai un peu chahuté sur ma hanche pour faire sortir les gaz et il n'a pas fallu 2 minutes pour que Baby Girl arrête de pleurer et me regarde avec son sourire comme elle sait faire. Mais Miss Lee Folt, elle n'a plus pris son bébé de toute la journée. Des femmes qui attrapent le baby blues après l'accouchement, j'en avais déjà vu des tas. Je me suis dit que ça devait être ça. Mais il y a une chose avec Miss Lee Folt. C'est pas juste qu'elle fronce tout le temps les sourcils. En plus, elle est toute maigre. Elle a des jambes tellement fines qu'on les dirait poussées de la semaine dernière. À l'âge de 23 ans, la voilà efflanquée comme un gamin de 14. Même ses cheveux bruns sont tellement fins qu'on voit au travers. Elle essaie de les faire bouffer, mais ça les fait seulement paraître plus fins. Et sa figure, elle ressemble à celle du diable rouge sur la bonbonnière, avec le menton pointu et tout. Pour tout dire, elle a le corps tellement plein de pointes et de bosses qu'il faut pas s'étonner si elle arrive jamais à calmer ce bébé. Les bébés, ils aiment les grosses. Ils aiment fourrer la tête sous votre bras pour s'endormir. Ils aiment les grosses jambes aussi, ça je peux vous le dire. Mae Mobley, à 1 an, elle me suivait déjà partout où j'allais. Quand arrivait 5 heures, elle se cramponnait à mes chaussures, elle se traînait par terre et elle bramait comme si j'allais jamais revenir. Après, Miss Lee Folt me regardait de travers, à croire qu'il n'aurait pas fallu décrocher ce bébé qui criait à mes pieds. Je pense que c'est le risque qu'on prend quand on laisse quelqu'un d'autre élever ses enfants. Elle a 2 ans maintenant, Mae Mobley, et des grands yeux noirs, et des boucles blondes comme du miel. Mais la plaque chauve derrière son crâne, ça gâche un peu. Elle a la même ride que sa mère entre les sourcils quand elle n'est pas contente. Ça leur plairait plutôt à ses parents, sauf que Mae Mobley est trop grosse. Ça sera pas une reine de beauté. Je crois que ça embête Miss Lee Folt, mais Mae Mobley, c'est mon bébé. J'ai perdu mon garçon, Trilor, juste avant de commencer chez Miss Lee Folt. Il avait 24 ans, le plus bel âge de la vie. Ça lui faisait pas assez de temps passer en ce monde, c'est tout. Il s'était pris un petit appartement dans Folly Street. Il sortait avec Frances, une gentille fille. Et je pense qu'ils auraient pas tardé à se marier, mais il était un peu lent pour ces choses-là, Trilor. C'était pas qu'il voulait trouver mieux, mais plutôt qu'il était du genre qui réfléchit. Il avait des grosses lunettes et il lisait tout le temps. Même qu'il avait commencé à écrire son livre sur comment les gens de couleur vivaient et travaillaient dans le Mississippi. Mon Dieu, que ça me rendait fière. Mais un soir, il est resté tard à la scierie de Scanlon Taylor pour charger des grosses poutres sur le camion, pleines d'échardes qui vous rentraient dans la peau à travers les gants. Il était trop petit pour ce travail, trop maigre, mais il en avait besoin. Il était fatigué, il a glissé du quai de chargement et il est tombé dans le passage. Le type qui conduisait le semi-remorque l'a pas vu et il lui a écrasé les poumons avant qu'il ait fait un geste. Quand je l'ai su, il était mort. C'est ce jour-là que tout est devenu noir. L'air était noir, le soleil était noir. Je me suis couchée et je suis restée à regarder les murs noirs de ma maison. Minnie venait tous les jours pour voir si je respirais encore, me faire manger et me garder en vie. Il s'est passé 3 mois avant que je regarde par la fenêtre et que je vois que le monde était toujours là. Je revenais pas de m'apercevoir qu'il s'était pas éteint, comme ça, parce que mon garçon était mort. 5 mois après l'enterrement, je me suis levée. J'ai mis mon uniforme blanc et ma petite croix en or autour du cou, et je suis entrée au service de Miss Leafold parce qu'elle venait d'accoucher de sa petite fille. Mais j'ai pas tardé à comprendre que quelque chose avait changé. On m'avait planté dedans une graine d'amertume, et j'acceptais plus les choses comme avant.
Finissez le ménage et ensuite vous préparerez la salade de poulet, dit Miss Leafold.
C'est le jour du club de bridge, chaque 4e mercredi du mois. Évidemment, j'ai déjà tout préparé. J'ai fait la salade de poulet ce matin, j'ai repassé le linge de table hier. Miss Leafold m'a vu faire tout ça. Elle a que 23 ans, mais elle aime bien s'entendre me donner des ordres. Elle a déjà mis la robe bleue que j'ai repassée ce matin. Celle avec les 65 plis à la taille. Tellement petit que je suis obligée de lorgner à travers mes lunettes pour les aplatir. Il n'y a pas beaucoup de choses que je déteste dans la vie, mais cette robe et moi, on n'est pas faites pour s'entendre.
Et débrouillez-vous pour que mes Mobley ne viennent pas nous embêter. Je suis tellement furieuse contre elle. Elle a déchiré mon papier à lettres en 1000 morceaux et j'ai 15 mots de remerciement à écrire pour la Ligue.
J'arrange tout bien pour ses copines. Je sors le cristal et l'argenterie. Miss Leafold ne met pas des jolies petites cartes comme font les autres dames. On dresse le couvert sur la table de la salle à manger, on met une nappe pour cacher la grosse fente en forme de L et on pousse le centre de table garni de fleurs rouges sur le côté, à l'endroit où le bois est tout abîmé. Miss Leafold, quand elle invite à déjeuner, elle aime que ça soit chic. C'est peut-être que la maison est petite, alors elle essaie de compenser. Ils sont pas riches, ça je le sais. Les riches, ils en font pas tant. J'ai l'habitude de travailler pour des jeunes couples, mais je crois que cette maison, c'est la plus petite où j'ai été. Rien qu'un rez-de-chaussée. La chambre de Miss et Mr. Leafold, au fond, est assez grande, mais celle du bébé est toute petite. La salle à manger et le salon se touchent. Il n'y a que 2 WC, et ça me va bien, vu que j'ai déjà travaillé dans des maisons avec 5 ou 6. Une journée, il fallait rien que pour nettoyer les toilettes. Miss Leafold me donne que 95 cents de l'heure, moins que ce que je gagne depuis des années. Après la mort de Trilor, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Mon propriétaire voulait plus attendre. Mais même si c'est petit, Miss Leafold fait ce qu'elle peut pour que ça soit joli. Elle se débrouille bien à la machine à coudre. Quand elle peut pas acheter du neuf, elle trouve du tissu bleu et elle fait elle-même. On sonne à la porte et j'ouvre.
« Bonjour, Ebeline, » dit Miss Skeeter parce qu'elle est du genre qui parle à la bonne. « Comment ça va ?»«
Bonjour, Miss Skeeter, ça va ? Mon Dieu, il fait chaud dehors. » Miss Skeeter est très grande. Et maigre, avec des cheveux jaunes coupés courts au-dessus des épaules, parce que sans ça, il frise. Elle a dans les 23 ans, pareil que Miss Leafold et les autres. Elle pose son sac sur la chaise, se secoue un peu dans ses vêtements. Elle porte un chemisier blanc qu'elle boutonne jusqu'en haut comme une bonne sœur, et des souliers plats, pour pas être trop grande, je suppose. Miss Skeeter, on dirait toujours que c'est quelqu'un d'autre qui lui dit comment s'habiller. J'entends Miss Hilly et Miss Walters, sa maman, qui s'arrête devant la maison avec un petit coup de klaxon. Miss Healy habite à deux pas, mais elle vient toujours en voiture. Je la fais rentrer, elle me passe devant, et je me dis que c'est le moment de réveiller Mémoubli de sa sieste. Dès que j'entre dans sa chambre, Mémoubli me sourit et tend ses petits bras grassouillés. « Déjà debout, baby girl. Pourquoi tu m'as pas appelée ?» Elle rit. Elle est toute contente et elle gigote en attendant que je la prenne. Je la serre bien fort dans mes bras. Ça doit pas lui arriver souvent, je pense, quand je suis pas là. Des fois, quand je viens prendre mon service, je la trouve en train de brailler dans son petit lit pendant que Miss Leafold est occupée à sa machine à coudre et qu'elle lève les yeux au ciel comme s'il y avait un chat sauvage accroché à la porte. Parce que Miss Leafold, c'est tous les jours qu'elle s'habille chic. Elle est toujours maquillée, elle a un garage pour la voiture, un frigidaire à deux portes avec distributeur de glaçons. Quand on la voit à l'épicerie Jitney 14, on se douterait jamais qu'elle est sortie en laissant son bébé crier dans son berceau. Mais la bonne, elle, le sait toujours. Mais aujourd'hui, c'est un bon jour, la petite souris. Je dis « Abeline ?» Elle dit « Abe ». Je dis « Amour ?» Elle dit « Amour ». Je dis « Mémoubli ». Elle dit « Abe ». Et elle rit, elle rit. Elle est trop contente de parler et je dois lui dire « Allons, c'est l'heure maintenant ». Trilor, jusqu'à l'âge de 2 ans, il disait rien lui non plus. Mais quand il est entré en 3e année de la petite école, il parlait mieux que le président des États-Unis et il revenait à la maison en disant des mots comme « conjugaison » ou « parlementaire ». Quand il a commencé le lycée, on s'est mis à jouer à un jeu où je lui donnais un mot vraiment facile et lui devait trouver des mots bizarres qui voulaient dire la même chose. Je disais « chat » et lui disais « félin domestiqué ». Je disais « mixeur » et il disait « rotor motorisé ». Un jour, j'ai dit « Crisco ». Il s'est gratté la tête. Il pouvait pas croire que j'avais gagné avec un mot aussi simple. C'est devenu une plaisanterie secrète entre nous pour parler de quelque chose qu'on peut pas appeler autrement. Et on s'est mis à appeler son papa Crisco parce qu'on peut pas rêver sur un homme qui a abandonné sa famille et qui est en plus le plus minable vaurien que la terre ait jamais porté. J'emmène Mémoubli à la cuisine et je l'assois sur sa chaise haute en pensant aux 2 corvées qui me restent avant que Miss Leafold fasse une crise. Mettre de côté les serviettes de table qui commencent à s'effilocher et ranger l'argenterie dans le buffet. Mon Dieu, il va sûrement falloir faire ça pendant que ces dames sont là. J'apporte le plateau de mimosa dans la salle à manger. Miss Leafold est assise au bout de la table avec Miss Healy Holbrook à gauche et à côté la maman de Miss Healy, Miss Walters, que Miss Healy traite pas avec le respect qu'elle devrait. Et à droite de Miss Leafold, c'est Miss Skeeter. Je fais tourner les œufs en commençant par Miss Walters puisque c'est la plus vieille. Elle fait chaud là-dedans, mais elle garde un gros pull marron sur les épaules. Elle prend un œuf avec la cuillère et elle manque de le laisser tomber vu qu'elle commence à avoir la tremblote. Après, je passe à Miss Healy et elle sourit et en prend 2 d'un coup. Miss Healy a une figure ronde et une choucroute de cheveux bruns. Elle a la peau couleur olive avec des taches de rousseur et des grains de beauté. Elle porte souvent des tissus écossais rouges et elle a un gros derrière. Aujourd'hui qu'il fait chaud, elle a mis une robe rouge sans manches et sans ceinture. Une de ces robes pour les dames qui continuent à s'habiller comme des petites filles avec des nœuds et des chapeaux assortis et tout. Miss Healy, c'est pas ma préférée. Je m'approche de Miss Skeeter, mais elle me regarde en fronçant le nez et elle dit « Non merci », parce qu'elle mange pas d'œufs. Je le dis à Miss Leafold chaque fois qu'elle reçoit le club de bridge, et elle me fait faire quand même des œufs mimosa. Elle a peur que Miss Healy soit déçue, sinon. Et je finis par Miss Leafold. Vu que c'est elle qui reçoit, c'est à elle de se servir en dernier. Dès que j'ai fini, Miss Healy dit « Permettez ?» Et elle attrape encore 2 œufs, ce qui ne m'étonne pas du tout. « Devinez sur qui je suis tombée au salon de beauté ?» demande Miss Healy aux autres dames. « Sur qui donc ?» demande Miss Leafold. « Celia Foot. Et vous savez ce qu'elle m'a demandé ?» Si elle pouvait aider pour la vente de charité cette année. « Bien, » dit Miss Skeeter, « on en a besoin. » « Pas tant que ça. » Je lui ai répondu, « Celia, il faut être membre de la Ligue ou donatrice pour participer. » « Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Elle croit que c'est ouvert à n'importe qui ?» On n'acceptera pas de non-membres cette année ? Puisque la vente marche si bien ? Demande Miss Skeeter.
Ma foi, oui, dit Miss Healy. Mais ce n'était pas à elle que j'allais le dire.
Je ne comprends toujours pas comment Johnny a pu épouser une fille aussi ordinaire, dit Miss Leafold.
Et Miss Healy hoche la tête.
Elle se met à distribuer les cartes. Je sers la salade en gelée et les sandwichs au jambon, et je ne peux pas m'empêcher d'écouter leur bavardage. Ces dames-là ont trois sujets de conversation, pas plus. Leurs gosses, leurs toilettes et leurs amis. J'entends le nom de Kennedy, mais je sais qu'elle discute jamais de politique. Elle parle de la robe que Miss Jackie portait à la télé. Quand j'arrive à Miss Walters, elle prend qu'une petite moitié de sandwich.
« Maman !» crie Miss Healy. « Prends un autre sandwich, tu es maigre comme un clou !»
Miss Healy regarde les autres dames.
« Je ne cesse de le lui dire. Si cette mine ne sait pas cuisiner, il faut tout simplement la renvoyer. »
Je tends l'oreille. Elle parle de la bonne. Minnie, c'est ma meilleure amie.
Minnie cuisine très bien, dit la vieille Miss Walters. Mais je n'ai plus le même appétit, c'est tout.
Minnie, c'est peut-être la meilleure cuisinière du comté de Hinds, ou même du Mississippi. La vente de la Ligue a lieu tous les ans à l'automne, et elles vont bientôt lui demander de faire 10 gâteaux au caramel pour les mettre aux enchères. Une bonne comme elle, normalement tout le monde devrait se la disputer. Sauf que Minnie, c'est une grande gueule. Faut toujours qu'elle réponde. Un jour, c'est au patron blanc de l'épicerie Jitney Jungle, le lendemain à son mari, et tous les jours à la blanche chez qui elle travaille. Si elle est depuis si longtemps chez Miss Walters, c'est uniquement parce que Miss Walters est sourde comme un pot.
J'estime que tu es mal nourrie, maman,
lui crie Miss Healy dans l'oreille.
Cette Minnie ne te fait pas bien manger et elle te vole le peu d'argenterie qui me reste.
Miss Healy se lève, elle a l'air énervée.
Je vais au petit coin. Surveillez-la au cas où elle tomberait d'inanition.
Dès que Miss Healy est sortie, Miss Walters dit très fort dans son dos.
Ça te ferait trop plaisir.
Elles font toutes comme si elles avaient rien entendu. Je ferais bien d'appeler Minnie ce soir pour lui répéter ce que Miss Healy a dit. Dans la cuisine, Baby Girl est bien droite sur sa chaise haute avec du jus violet plein la figure. Dès qu'elle me voit arriver, elle sourit. Elle fait pas d'histoire si je la laisse ici toute seule, mais j'aime pas que ça dure trop longtemps. Je sais qu'elle reste sans rien dire à surveiller cette porte en attendant que je revienne. Je lui donne une petite tape sur son petit crâne tout doux et je repars pour servir le thé glacé. Miss Healy est revenue s'asseoir et elle a l'air renfrognée. Elle a trouvé autre chose pour faire la tête.
« Oh, Healy, tu devrais plutôt aller aux toilettes de la chambre d'amis, » dit Miss Leafold en battant les cartes. Ebeline ne fait pas celle du fond avant le déjeuner.
Healy lève le menton, puis elle fait c'est sa façon d'attirer délicatement l'attention pour que tout le monde se tourne vers elle sans savoir pourquoi.
Mais les toilettes de la chambre d'amis, c'est là que va la bonne, elle dit.
Il y a un silence. Alors Miss Walters hoche la tête comme si elle avait tout compris et elle dit avec sa grosse voix.
Elle est contrariée parce que la négresse va dans les mêmes toilettes que nous.
Mon Dieu, ça va pas recommencer avec ça. Elle me regarde toute pendant que je range les couverts en argent dans le tiroir de la desserte et je comprends que je dois sortir maintenant. J'en suis à la dernière cuillère. Miss Leafold me lance un coup d'œil et dit
« Il nous faut encore du thé, Ebeline. Allez en chercher. »
Je fais ce qu'elle dit, même si leurs tasses sont encore pleines à ras-bord. Je traîne un moment dans la cuisine, mais j'ai plus rien à y faire. C'est dans la salle à manger qu'il faut que j'aille pour finir de ranger les couverts. Et je dois aussi m'occuper du placard à linge, mais il est dans le couloir, juste à côté de la salle à manger. Je vais pas me mettre en retard parce que Miss Leafold joue aux cartes quand même. J'attends quelques minutes en essuyant le comptoir. Je donne encore un peu de jambon à Baby Girl et elle l'avale. Finalement, je me glisse dans le couloir en priant le ciel qu'on me voit pas. Elles ont chacune une cigarette à la main et les cartes dans l'autre. J'entends Miss Healy qui dit
« Elisabeth, si vous aviez le choix, vous ne préféreriez pas qu'elles fassent leurs besoins dehors ?»
Voilà, nous avons écouté donc le début du roman La couleur des sentiments, écrit par Catherine Stockett, cette américaine donc qui vit dans le qui est originaire de Jackson dans le Mississippi et qui vit actuellement à Atlanta. Donc si vous voulez retrouver, enfin lire bien sûr la suite, connaître la suite de ce roman, eh bien il existe en version papier et en version audio comme vous venez de l'entendre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer pour connaître la suite, donc La couleur des sentiments. Alors, Page à Page se mettent en vacances hein, pour les 15 jours qui viennent. Donc, on se retrouvera le jeudi 1er mars à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances d'hiver. Et puis surtout, n'oubliez pas de prendre un livre, papier ou audio, hein, comme vous voulez, pour agrémenter vos vacances. Bonnes vacances à tous et à Dissiat et au 1er mars.
Soy Maelo, si has plavengus din emisiu des Libres d'Occitania.